évoquer un certain nombre d'axes problématiques ou d'entrées choisies par l'auteur pour traiter cette économie symbolique du goût, alors qui ne s'intéresse pas là seulement à la critique, mais qui appréhende plus largement en fait la relation en fait, hein, entre la production et la réception par la critique, la consommation, etc. C'est, je dois dire, ce qui m'a particulièrement intéressé dans l'ouvrage de Stéphane Olivesi, et c'est ce que je vais essayer de mettre le plus en évidence, sachant que voilà, j'ai fait des choix dans la présentation, parce que je pense que ça m'a paru intéressant de me focaliser sur certains chapitres ou certains, on va dire, certaines étapes de cette chaîne d'intermédiation ou de cette chaîne de coordination qui va de la production à la réception, ou du moins à la dégustation professionnelle, on va dire, parce qu'il n'y a pas véritablement une enquête sur les amateurs, ou en tout cas pas sur le grand public, pas vraiment, mais en tout cas, on a les différentes étapes et la coordination d'un certain nombre d'acteurs dans ce monde du vin qui contribuent en fait à sa production à la fois matérielle et symbolique. Et je crois que l'intérêt de l'ouvrage, c'est notamment de bien montrer à quel point ces deux dimensions, la dimension de production matérielle et la dimension de production symbolique, sont vraiment étroitement liées et s'interpénètrent complètement. Alors qu'on a souvent tendance plutôt à les distinguer, hein, le vigneron, sa vigne, la terre, etc. d'un côté, et puis les lieux de vente, de distribution, la consommation, la dégustation de l'autre. Mais en réalité, et ce que montre l'ouvrage aussi de façon générale, je vous le dis d'emblée comme ça, ça donne une clé de lecture, c'est aussi que l'intérêt de percevoir, d'étudier ce monde tel que l'a fait Stéphane Olivesi, c'est aussi que ce monde se transforme dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, c'est l'aval de la filière ou les goûts des consommateurs pris en compte par différents acteurs pour remonter jusqu'aux vignerons qui déterminent la production et détermine les choix, les choix même des producteurs, des vignerons. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, l'auteur déploie toute la complexité en fait, qui se cache derrière la simplicité d'une question de départ. La question de départ, c'est comment produit-on le vin aujourd'hui ? Alors évidemment, cette question s'entend dans un sens très large, vous l'avez compris à partir de ce que j'ai dit, de ce que je viens de dire auparavant. Dans un sens très large qui fait intervenir plusieurs échelles et plusieurs étapes de la production, hein, production matérielle et production symbolique, mais qu'on va voir se subdivise en tout un ensemble d'acteurs, d'expertises, etc. Alors, pour comprendre, selon Stéphane Olivesi, hein, pour comprendre comment le vigneron produit son vin, il faut comprendre comment s'ordonne en fait l'organisation collective à la morphologie variable selon les régions, pour satisfaire des consommateurs aux goûts et aux ressources hétérogènes. Et pour cela, comment cette production s'appuie sur la coordination marchande de tous ceux qui distribuent et qui commercialisent le vin, de tous ceux qui produisent des discours et des représentations aussi pour valoriser le produit. Et donc l'une des idées centrales, l'idée centrale du livre, c'est que le moment premier du processus productif est plutôt à chercher au sein des marchés, au sein de l'intermédiation, plutôt qu'à la vigne, du moins aujourd'hui, au terme d'un certain nombre de transformations qui sont soulignées dans l'ouvrage. Effectivement, ces transformations accordent aujourd'hui un poids croissant à l'aval de la filière vinicole, et je trouve qu'il s'agit d'un constat intéressant parce qu'il est bien documenté, et qu'il rejoint aussi le constat dressé dans d'autres travaux, sur d'autres domaines, d'autres économies des biens symboliques. C'est quelque chose que j'ai pu constater, moi, en travaillant sur les intermédiaires dans différents mondes de l'art, notamment celui de la musique. De toute façon, on peut le voir aujourd'hui pour le cinéma, pour les produits audiovisuels. Il suffit de penser à Netflix, il suffit de penser à tous ces, finalement, ce qui n'était avant que des canaux et qui sont devenus des producteurs. Les diffuseurs se sont appropriés petit à petit la production et ont fini par être les producteurs des produits et ceux qui, en tout cas, en passent commande et les produisent pour les diffuser. Bref. Donc, je reviens au vin. Alors, ce faisant, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ouvrage, l'auteur s'intéresse aussi à la genèse des normes de goût, à travers justement la multiplicité des interactions marchandes et des certifications expertes qui associent différents protagonistes de la filière, qui sont impliqués dans la production du viticulteur au consommateur. Alors, plusieurs idées directrices ou thèses sont présentées en introduction, et je vais m'y arrêter parce qu'elles permettent d'emblée de savoir un petit peu où l'on va dans la succession ensuite des chapitres. La première idée directrice, c'est qu'une sociologie des conditions de production du vin ne peut dissocier la fabrication matérielle du vin de sa fabrication symbolique. La seconde précédant est déterminant, selon Stéphane Olivesi, la première. Aujourd'hui, je le cite, pour les viticulteurs, le problème n'est pas tant de faire un vin sain, loyal et marchand, comme on disait autrefois, que de le vendre. Dans ce cas, la communication apparaît comme un moment important, voire premier, de la production. Deuxième idée directrice, c'est dans le prolongement, c'est la première idée directrice s'appuie en fait sur un constat qui est étayé dans le livre. Les transformations de la filière vinicole au cours des 5 dernières décennies font apparaître une segmentation croissante des modes de consommation et une diversification des modèles de production. Les producteurs et les consommateurs de grands crus bordelais n'ont aujourd'hui pas grand-chose à voir avec ceux de ce qu'on appelle les vins nature, ni avec ceux de la grande distribution. Voilà. Donc on a une segmentation de la consommation et puis une diversification des modèles de production. Cette diversification croissante, elle s'articule en fait à une recomposition des hiérarchies de goût et elle s'articule aussi au développement de sous-filières autonomes qui vont du producteur au consommateur, comme dans le cadre du vin nature, où on a des producteurs de vin nature, des distributeurs de vin nature, des consommateurs de vin nature. Il y a donc des caves, des cavistes qui sont spécialisés dans le vin nature, et qui ne font pas que du vin nature en général, pas tout à fait que ça, mais enfin qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Et donc on a une filière verticale qui est séparée des autres, pas complètement autonome bien sûr, elle est dans le monde du vin en général, mais enfin... Donc on a comme ça une segmentation du marché qui est intéressante et qui évidemment agit sur une recomposition des goûts avec, on va dire, plusieurs hiérarchies de goûts en fait. Et donc, selon l'auteur, il faut par conséquent parler plutôt de monde du vin au pluriel plutôt que d'un seul secteur qui n'est plus suffisamment homogène pour qu'on en parle comme d'un tout unifié. Alors cette segmentation des mondes du vin renvoie à un phénomène comparable au renversement de la logique productive, que les économistes ont appelé « révolution post-fordienne », en fait à la logique productiviste du vin des années 1960-1970, qui consistait à produire du vin en quantité, pour ensuite l'écouler et le commercialiser bon an mal an, avec plus ou moins de succès. À cette logique productiviste-là a succédé une rationalisation de la production par l'aval de la filière. Une rationalisation qui est basée sur des marchés de plus en plus différenciés et sur les attentes supposées des consommateurs, en quête de produits aussi de plus en plus différenciés, mais en tout cas, donc cette rationalisation basée sur les attentes supposées des consommateurs, ça veut dire marketing, pour les cerner, il faut faire intervenir le marketing, et le marketing est devenu un savoir avec ses dispositifs, etc., qui sont très présents aujourd'hui dans le monde du vin. Alors cette révolution du modèle productif est aussi celle de la consommation, tandis que le volume global de la consommation baissait, eh bien le vin est passé du produit alimentaire de base au produit répondant avant tout à des usages festifs et distinctifs, et dont le prix a globalement augmenté. Alors dans ce mouvement de longue durée, les intermédiaires de la filière entre le producteur et le consommateur ont pris une place croissante dans la définition des critères de production et des critères de goût. Ça c'est un intérêt aussi de l'ouvrage, je trouve, que de mettre en avant justement ces producteurs. Alors dans d'autres travaux sur le vin, ces intermédiaires ne sont pas absents, bien entendu, dans les travaux de Marie-France Garcia, dans les travaux de Céline Bessière, Mais là, disons que vraiment, leur rôle est vraiment étudié de près, avec cette idée voilà, que ce monde se transforme et donne une place croissante à ces intermédiaires. Voilà, donc Stéphane Olivetti consacre une partie entière aux œnologues, hein, qui se sont imposés comme des acteurs centraux dans la fabrication matérielle du vin, mais aussi comme des acteurs centraux de la marchandisation du vin, j'y reviendrai. Mais ce sont aussi les critiques qui font l'objet d'un chapitre, et puis d'autres intermédiaires occupent une place importante aussi, les distributeurs, experts, les labels de qualité, les récompenses aussi, enfin, les instances de consécration, dont l'importance en fait s'est accrue avec celle de la fabrication symbolique du vin. Hein, voilà, c'est cette dimension symbolique du vin qui a pris cette dimension symbolique dans la production du vin qui a pris aussi beaucoup d'importance et avec elle les intermédiaires. Alors ce renversement des logiques de production conduisant à s'ajuster à des marchés segmentés a provoqué en fait aussi une intensification de la concurrence, hein, entre viticulteurs et donc aussi une attention croissante aux stratégies marchandes, aux stratégies de promotion, aux stratégies de mise en visibilité. Et donc, comme je disais tout à l'heure, à la communication et au marketing. Ce nouvel état du champ, hein, je suis tenté de dire, même si l'auteur n'utilise pas ce concept, et ce sera peut-être une des questions que je poserai plus tard, ce nouvel état du champ, de la production vinicole et de sa distribution, de sa diffusion, est aussi marqué en fait par une intensification de la trame des interactions, selon donc Stéphane Olivetti. Intensification de la trame des interactions entre ces protagonistes pour distribuer, promouvoir, commercialiser les vins. Alors ce constat, je trouve qu'il est tout à fait intéressant parce qu'il montre que la fabrication symbolique du vin occupe une place de plus importante qui conditionne de plus en plus la production matérielle du produit. C'est une production qui est devenue plus collective, on pourrait dire. Et cette fabrication symbolique se fonde sur les différentes formes de communication qui accompagnent la promotion et la commercialisation. Elles se fondent bien sûr aussi sur l'élaboration de discours et de critères qui définissent ce que doit être le bon vin, notamment du point de vue gustatif. Alors, une troisième ligne directrice, une troisième thèse, qui en fait est la contrepartie hein, des premières, c'est que c'est celle qui consiste à dire que les vignerons sont de moins en moins ceux qui font le vin, au sens de la fabrique symbolique et de son insertion dans les logiques marchandes. Hein, selon l'auteur, en fait, ils sont de plus en plus contraints de gérer un ensemble de pressions économiques, réglementaires et sociales, qui finalement les dessaisissent de plus en plus de l'autonomie de la production, de la maîtrise de la production et des choix en fait qu'ils pourraient peut-être tenter de faire dans la production de leurs produits. Dernière idée directrice qui prend un petit peu le contre-pied des premières, enfin voilà, c'est que les mondes du vin reposent sur des modèles productifs distincts qui ont évolué et qui se sont affirmés au cours des dernières décennies et que distinguer ces modèles productifs, c'est ne pas perdre de vue quand même la dimension économique de la production, même si l'ouvrage insiste beaucoup sur la dimension symbolique. On est quand même dans des mondes économiques, clairement, avec des intérêts économiques très forts et des rapports de production auxquels justement s'intéresse beaucoup Stéphane Olivetti, et notamment entre des rapports de production, entre bien sûr les vignerons, mais aussi voilà, ces nouveaux acteurs enfin, qui se sont imposés en prenant une place beaucoup plus importante, comme les œnologues, dans la fabrication même du vin. Alors, une dimension très intéressante, je trouve, de l'ouvrage aussi, c'est, puisqu'il s'intéresse beaucoup au goût, il s'intéresse aussi beaucoup aux logiques distinctives. Hein, voilà. Stéphane Olivetti note combien le vin, en fait, qui s'est émancipé de son statut de produit alimentaire de base, est un produit qui se prête, sans doute beaucoup plus que d'autres, au jeu distinctif. Hein, et ce, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est vrai, c'est ce d'un bout à l'autre de l'espace social, au sein des milieux populaires, comme sous des modalités bien sûr différentes, dans diverses fractions des classes dominantes. C'est, le vin de base de table n'est plus le vin de consommation très courante, n'est plus bien sûr aussi fréquent qu'avant, ou beaucoup moins fréquent. Il y a bien sûr des dentales, mais voilà. Mais il y a une telle segmentation de l'offre que finalement, ça peut donner lieu à des pratiques de distinction dans beaucoup de milieux sociaux. Et c'est les logiques de distinction conditionnent non seulement le rapport au vin des consommateurs, bien sûr, mais elles conditionnent également en amont en fait, la production, en incitant, je cite, les producteurs à développer des stratégies marchandes tendant à différencier les produits d'une région à une autre, d'une appellation à une autre, et au sein d'une même appellation, au sein d'une même appellation d'origine contrôlée, de les différencier par gamme, en variant en goût et en prix, afin de satisfaire des attentes de plus en plus différenciées. Et donc ces logiques de distinction, on voit comment aussi elles se sont étendues, enfin elles étaient déjà présentes bien sûr dans la production, mais elles se sont intensifiées, on va dire, dans la production. Et ce que explique l'auteur, c'est qu'elles conditionnent aussi la valorisation, la survalorisation symbolique du vin, avec tout un ensemble de labels, de récompenses, de certifications, d'expertises, etc., qui viennent renforcer les signes distinctifs de tel ou tel segment de l'offre. Et on le voit bien d'ailleurs, donc avec notamment avec ce qu'on appelle les grands vins, hein, qui, entre guillemets, dont le prix de vente est maintenant l'objet de spéculations analogues aux œuvres d'art, hein, qui atteignent des prix mis au volant, sans commune mesure, bien sûr, avec les coûts de production, et sans lien mécanique non plus avec la rareté du produit, leur rareté. Voilà pour une présentation un peu d'ensemble. Deux mots sur l'enquête, hein, sur laquelle s'appuie l'ouvrage. Alors d'abord, bon, l'auteur ne s'en cache pas, c'est un amateur de vin qui a mis en fait ses expériences, les lieux qu'il a fréquentés, les connaissances qu'il a accumulées au service de l'investigation, sans ignorer qu'elles étaient aussi le fruit de sa position et d'un rapport particulier à l'objet qu'il décrit comme celui de sa position dans l'espace social. Moi, j'aimerais en savoir plus, c'est une question que je poserai à la fin. Comment est-ce qu'on peut décrire justement ce rapport à l'objet en fonction de ta position? Voilà. Par ailleurs, plusieurs investigations, hein, au-delà de cette connaissance indigène, cette connaissance en tant qu'amateur éclairé des mondes du vin, plusieurs investigations ont été menées. Qui ont visé à s'emparer de l'objet donc, sous différents angles. D'abord, l'examen de données préexistantes, hein, la littérature scientifique, la littérature professionnelle aussi, hein, du magazine grand public à des revues professionnelles, en passant par des guides. Ensuite, et c'est ça qui a en fait porté à la connaissance en fait, du lecteur, hein, c'est plusieurs séries d'entretiens, hein, il y a beaucoup d'extraits d'entretiens dans l'ouvrage, hein, plusieurs séries d'entretiens auprès d'acteurs de la filière vinicole, en variant les profils, des vignerons, des œnologues, des critiques, des représentants de la filière. En tout, 52 entretiens qui sont présentés, ainsi que quelques-unes des propriétés des enquêtés, dans la première annexe de l'ouvrage. Et puis enfin, le recueil de données diverses et variées au fil des rencontres, des participations à des événements comme des foires du vin, des dégustations, des discussions informelles avec des producteurs, etc. Donc tout ça, en fait, s'échelonne hein, sur une quinzaine d'années. Donc voilà, c'est le fruit d'une enquête assez longue. Alors, sur le plan de l'ouvrage, suit un cheminement finalement assez socio-économique, hein, qui part plutôt de la production pour aller vers la consommation, même si les trois premiers chapitres sont assez tournés vers la production en général, mais donc, en passant par des maillons intermédiaires de l'économie symbolique du vin. Alors, je vais surtout insister en fait sur certains chapitres, notamment le premier chapitre, parce qu'il parle il parle beaucoup des appellations d'origine contrôlée, et donc ça permet d'entrer tout de suite dans les questions de lutte de classement, de catégorisation. Je trouve que c'est intéressant et c'est important dans l'ouvrage. Je vais pas énumérer les chapitres avant de les présenter, donc je rentre tout de suite dans la présentation du premier chapitre, hein, qui porte donc sur les modèles productifs d'une part et leur transformation récente. Et il se focalise en fait en particulier sur les tensions que rencontre le système français et européen des appellations d'origine contrôlée, les AOC, hein, alors qui s'appelle depuis 2009 AOP, appellation d'origine protégée, mais enfin on continue de dire AOC, appellation d'origine contrôlée, donc je vais dire comme ça. Voilà, des modèles productifs qui rentrent en fait en tension de plus en plus avec, avec les appellations, avec le système des appellations d'origine contrôlée. Alors, c'est quelque chose que, voilà, c'est la question de ce premier chapitre que je vais essayer de développer. Alors ce chapitre, il s'ouvre sur la présentation de modèles de production que l'auteur présente comme des idéotypes de la production. Certains d'entre eux renvoient à certains de ces modèles de production, hein, il y en a sept en tout, renvoient à l'organisation traditionnelle, hein, de la filière, de la production vinicole, et donc à une organisation institutionnelle bien établie, quand d'autres justement sont des modèles émergents et qui ont émergé justement avec les transformations contemporaines des mondes du vin, et qui d'ailleurs sont pour beaucoup dans, je pense, ce qui a incité à parler de monde du vin au pluriel plutôt que d'un monde du vin au singulier. Alors, la présentation de ces modèles productifs pose les bases des analyses ultérieures, hein, ils sont présentés dans un tableau, alors je ne vais pas bien sûr les présenter dans le détail, ils sont décrits suivant plusieurs paramètres, la superficie exploitée, l'organisation de la production, c'est-à-dire sa division du travail notamment, la position adoptée par rapport au marché, le mode de distribution, la logique de promotion et de valorisation, les modalités de définition du produit, et enfin le type d'identité du produit. Hein. Par exemple, le vin est-il défini principalement par l'appellation d'origine contrôlée, ou est-ce que le vigneron s'est détaché de cette appellation pour faire de son nom, en fait, une matrice de l'identité de son produit ? Alors, je ne rentre pas dans les détails. Les trois premiers modèles, je vais juste les nommer. Hein, les trois premiers modèles sont ceux qu'on peut regrouper sous l'appellation d'indépendant. Alors, on a le petit indépendant, une économie assez précaire. Voilà, le moyen indépendant. Et puis, l'artiste, le vin artiste. Hein, voilà, je reviendrai sur ce troisième modèle. Et puis, on a ensuite quatre autres modèles de production ou idéal type de plus grande envergure. Le grand domaine, hein, ce qu'on appelle le grand nom du vin, les plus prestigieux. Hein. Le négociant, alors qui, donc c'est pas dans ce cas-là un vigneron, hein, c'est un négociant. Le modèle coopératif, donc la coopérative vinicole. Hein, là, quoi. Et puis un modèle plus récent, plus émergent, les vins du Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, voilà, les vins du Nouveau Monde. Donc je les répète, hein, premier le petit indépendant, deuxième modèle le moyen indépendant, troisième modèle le vin artiste. Quatrième modèle, le grand domaine, le grand nom. Cinquième modèle, le négociant. Sixième, la coopérative, modèle coopératif. Et puis, septième modèle, le nouveau monde. Alors, je précise au passage que je ne suis pas un amateur, un connaisseur du monde du vin, donc je vais dire des choses et je parle sous le contrôle de l'auteur. N'hésite pas à me reprendre s'il y a des choses sur lesquelles je me trompe. Alors, suite à cette présentation des modèles, la production donc, est surtout analysée dans le premier chapitre au regard du système de classification des appellations d'origine contrôlée. Cet angle d'analyse en fait, se comprend dans la perspective de l'ouvrage, qui ne consiste pas à interroger, par exemple, les logiques foncières ou l'activité professionnelle ou les trajectoires professionnelles des vignerons, mais à étudier donc, la production dans sa dimension économique et symbolique. Et sous cet angle, le système des appellations d'origine contrôlée offre une entrée intéressante en ce qu'elle inscrit d'emblée la réflexion dans les questions de catégorisation, je l'ai dit, de lutte de classement et de labellisation des vins, qui concernent en fait tous les acteurs jusqu'au consommateur, puisque ces AOC fonctionnent aussi comme label de qualité ou d'identification des vins au moins, et donc du goût de ce qu'on va acheter hein, quand on est un consommateur. La plupart des modèles productifs mentionnés précédemment s'inscrivent en fait dans le système des appellations d'origine contrôlée. L'appellation fonctionnerait comme un indice de qualité et un repère gustatif pour les consommateurs, je viens de le dire, et donc comme un marqueur identitaire fort et un levier pour la valorisation des vins. Ce qui est plus important concernant ce système des appellations d'origine contrôlée, c'est qu'il constitue également un cadre institutionnel et réglementaire pour la production. Un cadre garanti par un organisme de défense et de gestion, hein, les ODG, les organismes de défense et de gestion, qui contrôlent en fait, il y a un cahier des charges, etc. Ils contrôlent que le vigneron produit bien en conformité avec le cahier des charges et un certain nombre de paramètres. Et donc, un cadre institutionnel et réglementaire pour la production, garanti par un organisme de défense et de gestion, qui est constitué à l'initiative d'un ensemble de producteurs, pour assurer justement la reconnaissance de qualité et le respect de ce cahier des charges. Les organismes de défense et de gestion, associés donc à chaque, il y en a un par AOC, si j'ai bien compris, sont eux-mêmes contrôlés par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, INAO, INAO, hein, Institut National de l'Origine et de la Qualité. Hein, et dans ce cadre, en fait, l'AOC est ainsi garant, en fait, avec tout ce cadre réglementaire institutionnel, il est garant de la coordination économique entre les acteurs de la filière, à la fois entre vignerons et pour la distribution et la commercialisation du vin. Donc voilà que c'est plus, hein, le système des AOC, c'est bien plus que des appellations qui garantissent une qualité. C'est en fait c'est un système aussi qui régit la coordination entre les différents acteurs de la filière, entre les vignerons sur un territoire donné, etc. Donc c'est quelque chose qui s'accompagne aussi d'un grand nombre de contraintes d'ailleurs, hein, pour la production. Il faut répondre à un cahier des charges, il faut se soumettre à l'organisme de contrôle, etc. Enfin bref, donc voilà, je dis ça parce que ça permet aussi de comprendre que certains vont s'émanciper en fait de ce système-là. Alors justement, deux modèles productifs qui ont émergé récemment ne s'inscrivent pas dans le modèle des AOC, des appellations d'origine contrôlée. C'est d'abord les vins du Nouveau Monde, et ensuite les vins d'artistes. Alors les vins du Nouveau Monde sont notamment ceux que l'on trouve dans les nouveaux pays producteurs de vin, les États-Unis, la Californie notamment, le Chili, l'Australie par exemple. Alors on en trouve beaucoup moins en France, mais il y a par exemple un producteur comme Gérard Bertrand, hein, qui s'inscrit dans cette logique de nouveau monde, c'est-à-dire finalement les vins ne sont plus nécessairement millésimés, il y a une marque. Voilà. Et voilà, il y a des points, mais ouais, je laisserai préciser, comme Julien, je résume à grands traits, je sais bien qu'après il faudrait. Mais en gros, voilà, l'idée c'est production industrielle, stratégie de marque, on y reviendra peut-être, mais ces vins sont commerciaux.
Si je peux me permettre, ouais. C'est faire du vin comme de la bière Heineken. Enfin, un vin, et on commercialise sur le modèle d'une bière Heineken. Voilà. Pour faire simple. Hein.
Oui, pour nuancer. Non, mais effectivement, voilà, donc c'est l'exemple qui est repris. Effectivement, il y a une logique de marque comme celle-ci. Ils sont commercialisés selon une logique de marque de type industriel qui mobilise les apports d'une œnologie très interventionniste et puis du marketing, bien entendu. Et qui correspond à une consommation de masse de produits relativement standardisés. Et aussi, ces vins se caractérisent par la prévalence du cépage sur le terroir. C'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs, effectivement, quand on va dans certains pays étrangers, ces nouveaux pays, ces producteurs du Nouveau Monde, là, on a souvent, on fait ressortir les cépages sur l'étiquette, beaucoup plus que le terroir ou l'appellation. Voilà, c'est aussi ça. Alors, je passe sur ces modèles-là. L'autre modèle productif, le modèle artiste, s'oppose en fait en tout point à ces vins du Nouveau Monde, hein, à cet idéal type des vins du Nouveau Monde. Mais il s'oppose aussi, pour d'autres raisons, au modèle productif adossé au système des appellations d'origine contrôlée. Cette dénomination modèle artiste ou vin d'artiste, d'ailleurs, n'émane pas des vignerons eux-mêmes. Elle se justifie, selon Stéphane Olivesi, par le processus social de construction de la singularité visant à valoriser les produits. Un processus de construction de la singularité qui est analogue à ce qui se joue dans certains mondes de l'art, et notamment la comparaison qu'il a fait avec l'artisanat d'art. Alors, il s'agit en fait de vignerons qui sont reconnus souvent comme de bons vignerons, comme les meilleurs, hein, par leurs pairs, reconnus aussi par certains guides, par une clientèle aussi qui achète leur vin à des prix élevés, et qui ont quitté le système de l'appellation des origines contrôlées, parce qu'ils préféraient commercialiser leur vin. Alors, donc, pas pour ça, ils l'ont quitté, et donc ils ont commercialisé leur vin en vin de France ou vin de table, mais leur sortie du système, en fait, est motivée par l'entrave que ce système des AOC constituait. Un système qui n'apportait pas ou plus la valeur ajoutée supposée en raison de son manque parfois de notoriété. Il faut savoir que les AOC, en fait, il y en a environ 300, voire plus de 300 en France, Donc en fait, il y a des appellations d'origine contrôlée qui ont une forte notoriété, enfin, qui sont très identifiées. Il y en a d'autres, en fait, qui tirent plutôt la notoriété des vignerons présents sur le territoire vers le bas. Hein. C'est pas un gain, c'est pas un gain automatique, il n'y a pas une valeur ajoutée automatique, hein. Loin de là. Et donc, le vin produit selon ce modèle artiste apparaît comme une œuvre singulière, produite par un auteur, à l'image d'une œuvre d'art. Sa valeur, à la fois gustative et marchande, est attribuée en référence à son auteur. Alors, cette émergence, hein, l'émergence de ce modèle productif s'inscrit en fait dans le mouvement d'émancipation des producteurs à l'égard des structures institutionnelles à l'égard des structures institutionnelles locales qui s'est amorcé, un mouvement qui s'est amorcé dans les années 70. Et donc ces deux modèles que sont les vins du Nouveau Monde d'un côté et les vins artistes de l'autre sont révélateurs en fait de la mise en tension du modèle des appellations d'origine contrôlée, puisque les deux en fait se sont émancipés de ce système. Ils définissent en fait de nouveaux rapports de production, englobant à la fois les manières de faire du vin, les manières de le distribuer et aussi les manières de le consommer. Alors cependant, il reste que quand même le système des AOC est bien présent en France, et d'ailleurs dans d'autres pays européens sous d'autres noms. Les deux tiers environ de la surface exploitée, en fait, relèvent d'appellations d'origine contrôlée. Et donc ce système qui est fondé d'abord sur l'idée de terroir est toujours très présent. Mais il fait aujourd'hui l'objet donc de débats. Bien sûr, il fait l'objet de débats en raison de ces modèles émergents hein, qui viennent bousculer un petit peu les habitudes de ces modes de production. Et puis, il y a aussi d'autres labels hein, qui sont apparus, agriculture biologique, voilà, les vins nature, qui témoignent aussi, qui mettent aussi en tension ce système des AOC. Et par ailleurs, autre mise en tension, c'est que ce système des AOC, il s'est constitué dans un monde vinicole qui était où le cœur de la filière, le centre de gravité de la production, se situait justement en amont, côté vigneron. Voilà. Et le déplacement vers l'aval du centre névralgique de la production, enfin du centre de gravité, ce déplacement met en tension les appellations d'origine contrôlée. Alors, ce système des AOC, il est fondé sur l'idée de terroir et de typicité, supposée des vins produits en son sein. Alors, cela recouvre des différentes caractéristiques, hein, les caractéristiques géologiques, empélographiques, c'est-à-dire de la vigne, des caractéristiques climatiques, des caractéristiques historiques, propres au territoire concerné. Alors, bien sûr, je l'ai dit, il offre aux vignerons un cadre collectif d'action, de mutualisation des moyens nécessaires à la promotion des vins aussi. Et en fait, beaucoup d'exploitations de petite taille ou de taille moyenne dépendent beaucoup en fait, de l'AOC, au sens où leur identité et la valeur de leur production est indexée et fortement indexée à l'AOC. Voilà. Hein, donc on a d'un côté effectivement des vignerons qui sont très attachés, qui en dépendent beaucoup, et d'autres, de l'autre côté, des vignerons qui souhaitent en sortir parce qu'au fond, ils les tirent vers le bas au niveau de la valeur symbolique de leurs produits, ou alors les contraintes sont trop fortes, ou alors ils s'en trouvent exclus, hein, comme les producteurs de vins nature. Les vins nature, c'est des vins pour lesquels, pour la vinification, les producteurs n'utilisent pas ou très peu de sulfite, un peu de bactéries aussi. Voilà, ils ne sont pas reconnus, ils n'entrent pas nécessairement dans le cahier des charges, ils ne sont pas reconnus par le groupement de producteurs qui est à l'origine et qui gère l'appellation d'origine contrôlée. Alors, ces AOC, cela dit, voilà, derrière chaque AOC, il y a une grande hétérogénéité. C'est ce qui fait aussi que ce modèle est mis en tension. C'est-à-dire que derrière une même appellation d'origine contrôlée, on a des vins dont le tarif, le prix à l'achat, le prix de vente, peut varier de 1 à 10. Hein, donc en fait, c'est aussi ça qui met, et parfois justement, des producteurs qui vont pouvoir vendre leur vin à un tarif très élevé vont vouloir sortir de l'AOC, parce qu'au fond, ils n'y trouvent plus... ils ne trouvent plus d'intérêt à rester, ils se sont fait une marque, ils se sont fait une identité, et ils peuvent vendre leur vin indépendamment du label AOC. Quoi. Voilà, alors, c'était le premier chapitre, je vais passer beaucoup plus, je voulais m'attarder sur celui-là parce qu'il me semble important en termes de catégorie et de mise en tension du modèle productif. Le deuxième chapitre porte sur un nouvel acteur qui s'est imposé Et une nouvelle science, en fait, une nouvelle manière de produire le vin qui s'est imposée au cours des dernières décennies, notamment les décennies 90 et 2000, c'est l'œnologie. Hein, le deuxième chapitre s'intitule « La science du vin au service de sa production et de sa rationalité marchande ». Voilà. Et donc, il s'intéresse, ce deuxième chapitre, à l'emprise conjointe de l'œnologie sur la production du vin et du marketing, emprise du marketing dans la diffusion, bien sûr, mais aussi dans la production, hein, dès l'origine. Et donc, cette emprise conjointe de l'œnologie et du marketing, Stéphane Olivesi montre qu'elle soumet la production à une rationalisation par l'aval de la filière, en fait. Les regards sont portés sur l'aval de la filière, sur comment on va vendre le vin, à qui on va le vendre, etc. Et donc, en retour, la production est censée s'adapter à ces logiques de vente, hein, de commercialisation. Voilà. Alors, là, dans ce chapitre, je vais, comme ça touche vraiment la fabrication matérielle du vin, même si c'est important, je vais pas y passer autant de temps que sur le précédent, mais quand même dire que ce chapitre porte d'abord sur la naissance de l'œnologie, la genèse de l'œnologie, la naissance de l'œnologie moderne, qui s'est constituée comme une science, hein, voilà. Comme une science rapidement appliquée, hein, mais aussi comme une science impliquée, impliquée en fait dans l'importation des logiques marchandes. En fait, hein. C'est une les savoirs œnologiques se sont appuyés en fait aussi, enfin leur mise en œuvre dans la production s'est appuyée justement sur la marchandisation du vin et sur l'idée que voilà, il fallait pouvoir adapter la production et la fabrication même du vin pour faire des produits qui étaient mieux adaptés au goût des consommateurs, etc. Et donc c'est avec cette idée d'aval de la filière aussi que cette profession et cette science, entre guillemets, enfin ces savoirs en tout cas et ces savoir-faire se sont imposés. Les œnologues se sont donc imposés donc comme des experts des cépages, des experts de la vinification, des experts notamment du levurage, hein, la science des levures, qui permet donc, lors de la vinification, d'optimiser la rationalisation de la production et du goût en fonction de la demande, telle qu'elle est identifiée en tout cas. Parce que... voilà. Alors par exemple, ça permet, voilà, l'auteur donne quelques exemples de ce que ça a permis de faire concrètement, hein, voilà, ça permet d'accélérer la vinification, de gagner 6 mois par exemple dans la commercialisation du vin, voilà,
donc, et parfois plusieurs années.
Et parfois plusieurs années, voilà, voilà, ça permet d'adapter, d'ajuster beaucoup plus rapidement une production qui, par définition, alors ça, je me souviens bien, il ne faut pas oublier que c'est la production du vin, enfin le vin, c'est pas comme n'importe quelle marchandise, c'est pas une marchandise qu'on adapte instantanément au marché. C'est-à-dire que, bon, pour produire un bon vin, il faut des années, voire des décennies, pour lui donner tel ou tel goût, l'orienter dans telle ou telle direction, il faut beaucoup de temps. Et donc ça reste quand même, il y a quand même une inertie hein, de toute façon qui demeure, mais justement l'œnologie a permis d'accélérer beaucoup justement ces réorientations, ces changements, et puis finalement d'intervenir, les interventions aussi sur la vinification et donc aussi sur le goût du produit final.
Et de sécuriser la production.
Et de sécuriser la production, effectivement, qui, avec l'œnologie, est beaucoup moins fragilisée par les intempéries, par une année catastrophique sur le plan de la météo, par tout un ensemble de problèmes que rencontraient davantage auparavant les producteurs. Alors, finalement, ces experts de la fabrication du vin se sont imposés, en fait, comme des agents difficiles à contourner. En fait, beaucoup de vignerons sont venus... sont contraints en fait de faire appel à des œnologues pour fabriquer et produire leur vin. Finalement, ces œnologues, ils se sont appropriés la dimension la plus valorisée de la production du vin, c'est-à-dire en fait la dimension savante. Hein, c'est une science, ou en tout cas un ensemble de savoir et de savoir-faire qui permet comme ça de maîtriser la production du vin, la vinification, etc., à différentes étapes d'ailleurs de la production. Et ils se sont appropriés cette dimension savante ou intellectuelle au détriment, finalement, de l'expertise des vignerons, hein, qui, alors soit pour certains, finalement, délèguent à l'œnologue et pour les grands domaines, pour les vignerons bien installés, finalement, ce n'est pas un problème, etc. Mais pour d'autres vignerons qui étaient, qui voulaient, qui, des petits, des indépendants, moyens ou petits, finalement, se trouvent relégués au travail manuel de la vigne et au chai. Enfin, voilà. C'est-à-dire que, bon, bah, ils sont dépossédés de leur... Enfin, ils interviennent toujours, sur, bien sûr, sur leur vin, mais enfin... ils sont souvent, parfois, contraints. Alors, sauf les petits indépendants, je me trompe, parce qu'ils n'ont pas les moyens, je crois, de, parfois, de faire appel à des œnologues.
En fait, c'est toute la filière qui est sous influence.
Qui est sous influence, oui, mais...
Donc, les petits producteurs n'ont pas les moyens de recourir à un consultant externe, mais ils vont avoir un conseiller œnologique via l'interprofession. Ouais. Donc, d'une certaine manière, ils seront eux aussi sous influence œnologique.
Et donc, les œnologues sont... sont finalement, enfin en tout cas analysés par Stéphane Olivesi comme les acteurs centraux d'une révolution productive, à la fois technique et marchande, dans laquelle le marketing occupe désormais une place importante. Alors, il distingue trois types de légitimité, en fait, de ces œnologues, parce qu'ils ne se sont pas juste imposés par le savoir. Légitimité scientifique, notamment, qui neutralise en fait les critiques de cette chimie du vin, voilà. Légitimité aussi pragmatique, c'est-à-dire que, ben, en fait, à travers ses applications diverses, l'œnologie a réussi à faire la preuve de son caractère opérationnel. C'est-à-dire, ça marche. Voilà. Si on veut accélérer la production du vin, la finification, etc., se protéger contre les maladies, les intempéries, etc., ça marche. Voilà. Enfin, en tout cas, les recettes proposées ont fonctionné. Et, en tout cas, les viticulteurs ont eu le sentiment que ça fonctionnait. Donc légitimité pragmatique, et puis aussi légitimité normative, parce que l'œnologie, eh bien, c'est complètement inscrite dans les procédures de contrôle et d'accréditation marchande des vins. Alors, en fait, dans les AOC, bah, oui, les critères qui prévalent sont aussi, en partie en tout cas, des critères œnologiques. Voilà. Alors, je m'arrête là sur les œnologues, vous avez, je pense, saisi leur importance. Le chapitre 3, le chapitre suivant, traite plus, lui, effectivement, de la production.
Oui, un ajout. Je peux faire une petite parenthèse. Oui. Simplement un lien entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Ouais. C'est que dans le chapitre 2, je traite et j'insiste sur les œnologues, et ce n'est pas sans lien, sans résonance avec les producteurs indépendants, les producteurs de vin nature, les producteurs qui vont essayer de se réapproprier à leur compte la production. Puisqu'ils sont sous l'effet de ces œnologues, qui les dépossèdent de leur savoir, évidemment, ils entrent en lutte pour se réapproprier le savoir et redevenir maître de leur production. Donc là, il y a des luttes entre les deux.
Ok. Oui, tout à fait. C'est effectivement un point intéressant. Et alors, dans le chapitre 3, qui s'appelle une production stylisée, donc l'auteur se concentre, en fait, je vais passer très vite sur ce chapitre-là, parce qu'il concerne plus la production, et je voudrais me concentrer davantage, et je sais que je suis déjà trop long, sur la critique, pour faire le lien aussi, notamment avec l'ouvrage de Sidonie Nolin. Donc dans le chapitre 3, l'auteur se concentre sur la fabrication des vins sous l'angle des types de vins produits et de leurs identités. Il interroge le travail des producteurs pour matérialiser, sous la pression de nombreuses contraintes, une identité signifiante pour ceux qui goûtent, pour ceux qui distribuent et aussi pour ceux qui consomment le vin. Voilà. Alors ça, je vous le dis, ça touche plus effectivement la fabrication matérielle du vin. Je vais faire un choix, je vais me concentrer davantage sur le chapitre 4, qui, on y reviendra peut-être dans la discussion, ou Stéphane, si tu veux ajouter des choses sur ce chapitre-là, le chapitre 3.
En fait, il est peut-être certainement très descriptif, et il fait bien de le sauter, mais je me suis fait plaisir aussi en rapportant beaucoup de données empiriques, basiques.
Oui,
je crois.
Hein. Oui, tout à fait. Oui. Alors, effectivement, il est effectivement nécessaire. Je n'ai pas voulu rentrer. Et en plus, voilà, l'idée de cette séance qui cherche à faire le lien entre production et réception, c'est intéressant là sur la production, mais il m'a semblé plus intéressant, et pour faire le lien en plus avec l'ouvrage de Sidonie Nolin, de passer plus de temps sur le chapitre 4 qui traite justement de la critique.
Alors, peut-être une dernière remarque, après j'arrête. Ouais. C'est que lui aussi est en contrepoint, c'est-à-dire qu'il s'oppose, le chapitre 2 s'oppose au chapitre 3, puisque le chapitre 2, c'est la rationalisation par les œnologues, et le chapitre 3, c'est cette rationalisation mais vécue du point de vue des acteurs.
Donc le quatrième chapitre, nous emmène justement vers l'aval de la filière, ou l'aval de la production matérielle et symbolique, en tout cas, si on considère la dimension symbolique de la production, en s'intéressant au rôle de la critique vinicole dans la manière dont le vin est apprécié, dégusté et promu. Alors ce rôle de la critique, il a connu des changements en relation justement avec les transformations de la filière. Alors je reviendrai sur ces changements, mais de façon générale, bien sûr, la critique assure une fonction de coordination marchande, hein, on l'a bien vu aussi dans le cadre de la gastronomie, et là aussi, bien sûr, pour le vin, c'est patent, une fonction de coordination marchande, et elle fait intrinsèquement partie, explique Stéphane Alivézi, de la production. Production, au sens symbolique ici, mais on va voir que les verdicts de la critique, ses critères, etc., ont des effets en retour aussi sur la production, sur les producteurs, sur la façon dont le vin est fabriqué matériellement. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux relations entre production et réception ou consommation dans un univers culturel donné, bien sûr, la critique est toujours l'objet d'une attention particulière. Mais ce qui me semble intéressant dans ce chapitre, c'est justement l'analyse des relations d'interdépendance que la critique entretient moins avec les consommateurs, parce que c'est souvent à ça qu'on pense, les effets de la critique sur la consommation, sur choix des consommateurs, etc. Là, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce chapitre, c'est les relations d'interdépendance entre la critique et la sphère proprement productive du vin. Les producteurs, les œnologues, enfin les vignerons, les œnologues, etc. Et notamment les vignerons. Donc l'auteur a choisi d'appréhender la critique à travers les guides. Il y a d'autres formes de critique. Hein. Il y a la critique dans les médias, dans la presse généraliste, la critique dans la presse spécialisée, etc. L'auteur a choisi de se focaliser sur les guides. Se focaliser sur les guides pour travailler sur des supports comparables, et parce que les guides occupent encore une position, selon l'auteur, une position centrale dans l'activité critique de cet univers. Donc il ne sera donc pas question de presse écrite, et ni des blogs, bien qu'ils se soient multipliés. Il ne sera donc pas question des blogs de critique vinicole qui seraient des équivalents de ceux étudiés notamment par Sidonie. À noter cependant, en parlant de critique gastronomique, que les guides gastronomiques en fait ont servi de modèle aux guides vinicoles, à tel point qu'il y a certains guides gastronomiques qui ont eu leur déclinaison en guide.
C'est du copier-coller.
Oui. La critique vinicole, selon l'auteur, donc, ne peut pas être qualifiée vraiment de profession, ni même de métier. Hein, on peut distinguer deux types de trajectoires. Les trajectoires des critiques qui reposent sur une formation professionnelle au métier du vin, des sommeliers, des œnologues, et pas de vignerons, à noter. Et puis un autre type de trajectoire, sans lien initial avec les métiers du vin. Hein, ce sont souvent des gens qui ont des formations journalistiques et plus généralement littéraires. Qui sont des passionnés, qui sont devenus critiques. Voilà. Les critiques se démarquent à la fois et s'inspirent d'autres figures professionnelles des métiers du vin. Hein, ils se démarquent du vigneron, ils se démarquent surtout de l'œnologue, du sommelier et du dégustateur. Voilà, donc c'est des figures qui jouent à la fois comme repoussoir, hein, mais dont en réalité, repoussoir, il y a un double jeu, quoi. C'est-à-dire ils sont servent de repoussoir, mais les critiques s'en inspirent malgré tout. L'objectif de ce chapitre, c'est donc de saisir la place de la critique viticole dans l'économie générale de la filière et de comprendre l'incidence des jeux d'interaction entre producteurs, critiques et lectorat dans la définition gustative du produit final, du vin. Il s'agit de saisir en quoi cette activité participe à la construction du goût, bien sûr, à travers la sélection, la description, l'évaluation et le classement des vins. Alors, cette critique, bien sûr, elle fonctionne comme instance de médiation, de prescription en direction des consommateurs, mais aussi, comme c'est intéressant, je cite l'auteur, comme instance normative, signifiant aux uns, les producteurs, ce que veulent leurs clients, et aux autres, les consommateurs, ce qu'est un bon vin. La question de l'influence qu'exerce la critique sur les producteurs est, je le disais, intéressante dans une économie dont on a vu qu'elle était de plus en plus déterminée par l'aval de la filière. On voit que ce n'est pas seulement le marketing, etc., mais aussi la critique finalement qui joue dans ce sens-là. Alors bon, je vais passer des propos liminaires que développe Stéphane Olivesi sur la critique, hein, sur l'attention paradoxale, sa dépendance en fait aux producteurs, etc. Je vais y revenir plus concrètement par la suite. Et puis sur la production de la croyance, bien sûr, par la critique, l'enchantement autour du produit du vin, hein, qu'elle produit, qu'elle reproduit, etc., hein, qui fait que d'ailleurs elle justifie son rôle à travers ça. Hein, s'il n'y avait pas un enchantement, une sacralisation du produit, on n'aurait pas besoin sans doute de critique pour en parler. Elle en fait un produit sacré, noble, etc. Donc je passe sur ces considérations-là. Et j'en viens plus particulièrement aux relations d'interdépendance, notamment avec les producteurs. Alors, la prégnance des... Ce que s'explique Stéphane Olivesi, c'est qu'il y a une prégnance des déterminations socio-économiques dans les logiques qui organisent la critique et le discours critique. Alors, elle se manifeste d'abord, sinon par la dépendance, du moins en tout cas par l'adossement de chaque guide à un monde du vin, ou alors un ensemble de mondes du vin particulier, et à son économie. Alors là, ça renvoie aux modèles productifs qui ont été décrits notamment dans le premier chapitre. Hein. C'est-à-dire que voilà, le monde des vins de Bordeaux et celui des producteurs champenois ont quasiment leur guide, hein, c'est-à-dire les grands vins de Bordeaux, les grands producteurs champenois, sont davantage mis en...
au montage.
Sont davantage mis en avant par le guide des vins Béthane et de Sauve. Et ce monde des vins, ce n'est pas celui des nombreux vignerons indépendants qui sont distingués par le guide Hachette, hein, autre guide qui est d'ailleurs le plus diffusé, le plus connu. Et puis, c'est encore moins, hein, autre monde là encore, le carnet de vignes, hein, qui est un guide qui se veut, d'ailleurs, l'auteur, celle qui fait ce guide, ne définit pas ce livre comme un guide. Alors, je voudrais que j'arrête de parler de guide, c'est carnet de vignes. Et là, c'est un ouvrage qui s'intéresse à une sélection de 200 vignerons et leurs vins, qui s'intéresse aux vins nature, voilà, à ce modèle émergent, enfin, aux vins nature. Voilà, donc on peut voir une sectorisation aussi, hein, des modèles productifs et des guides qui vont avec ces modèles productifs. Alors bien sûr, quand on prend le guide Hachette, il recouvre quand même un nombre assez vaste de modèles productifs, même si il ne touche pas du coup les grands vins les plus onéreux, puisque, d'après ce que j'ai compris, hein, je ne l'ai pas potassé, mais l'idée du guide Hachette, c'est plutôt d'offrir aux consommateurs peu avertis des vins qui ont un bon rapport qualité-prix.
Oui, ce n'est peut-être pas ce que dirait le promoteur du
guide Hachette. Non, bien sûr. C'est ça. Mais c'est ce qu'on... Voilà. Alors, au-delà des hiérarchies que ces guides établissent à l'intérieur de tel ou tel de ces différents mondes, les guides donc contribuent à faire la valeur collective de leurs produits, hein, des produits de ces différents mondes. C'est-à-dire, en fait, bah, évidemment, le guide des vins nature, il promeut le monde des vins nature. Voilà, vous voyez. Alors, ces guides, en fait, comme instance de médiation, de légitimation et de création de valeur, sont donc indispensables en fait à l'existence de ce que je serais tenté d'appeler moi des tel ou tel pôle, hein, de l'univers du vin, ou tel monde. L'apparition d'un guide centré principalement sur tel ou tel type de vin contribue bien sûr à le faire exister. C'est vrai par exemple notamment pour des modèles émergents comme les vins nature. Alors, autre point intéressant, pour aller un peu plus loin que en tout cas, première dépendance à des logiques économiques, c'est que ces guides sont adossés quand même à des mondes particuliers de production, à des modèles de production particuliers. Autre point intéressant, ce qui permet de caractériser le modèle socio-économique d'un guide, c'est moins le rapport au lectorat visé que le rapport aux producteurs qui font l'objet de la promotion critique. Hein, c'est-à-dire qu'au sein de ces mondes, ou parfois ces ensembles de mondes, hein, quand un guide couvre plusieurs, eh bien, du coup, il va promouvoir certains producteurs, il va faire une sélection, etc. Alors, l'auteur donc, distingue quatre cas de figure qui sont partie prenante de la coordination marchande à laquelle ce livre participe la critique. Alors d'abord, un rapport direct, c'est le premier cas de figure, un rapport direct avec les producteurs promus, qui achète, un rapport direct entre le guide, c'est-à-dire la critique, et les producteurs. Hein, les producteurs, dans ce cas, achetant par des espaces publicitaires, notamment leur présence dans le guide, et aussi ils achètent quelques médailles hein, qui distinguent leur vin dans les rayons de la grande distribution.
Et là, on ne cite pas de nom.
Et voilà, là, j'ai remarqué, moi, c'est la question que je voulais poser, c'est quels sont ces guides ?
Est-ce qu'il y a... Je les citerai après quand tu
veux. Oui, voilà, il faudra couper, ouais, c'est ça. En tout cas, ils ne sont pas cités dans l'ouvrage. La légitimité donc, de l'expertise est alors, bien sûr, très faible, en l'absence d'autonomie. Hein. Et donc, ces guides, explique l'auteur, touchent surtout le consommateur peu averti qui utilise ce guide sans trop percevoir qu'il s'agit principalement d'un support publicitaire. Deuxième cas de figure, hein, des relations entre producteur et guide, ou la critique, c'est le rapport indirect, mais individualisé avec les producteurs. Donc là aussi, rapport avec les producteurs, mais indirect, mais toujours individualisé. C'est-à-dire, la mise en lumière des producteurs n'est pas sans lien dans ce cas. Alors, elle n'est pas achetée, hein, les producteurs n'achètent pas, financent pas directement les guides, mais elle est pas, la mise en lumière des producteurs n'est pas sans lien avec des services fournis par les producteurs, par les vignerons, achats publicitaires sur d'autres supports, participation à des événements, mise à disposition de ressources. Alors de ressources, c'est-à-dire par exemple les vins déjà, non ? C'est ça, pour la dégustation. Parce que sinon, quand on fait un guide,
je fais une petite parenthèse, ce qui compte surtout, c'est l'événementiel.
Oui.
Dans ce cas-là. L'événementiel est lié d'une certaine manière à l'économie de la critique. Mais je fais une petite parenthèse.
D'accord. Et donc, dans ce rapport direct individualisé avec les producteurs, il y a donc une production, il y a des services qui sont proposés par les producteurs, et puis aussi une promotion globale de l'économie à laquelle ils appartiennent. Donc, la légitimité du jugement critique, dans ce cas-là, elle peut être mise en doute, mais en tout cas, le lien avec les producteurs est moins évident. On a ensuite un autre cas de figure qui est le rapport indirect avec les producteurs, mais un rapport, pour le coup, collectif. Bon, dans ce cas-là, c'est l'adossement, finalement, à tel ou tel monde dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est les promus, c'est-à-dire ceux qui sont sélectionnés, et pour certains valorisés par la critique, dans ces guides, appartiennent à un même monde du vin, dont il s'agit de faire globalement la promotion. Voilà. Dans ce cas-là, la légitimité de la critique reste à peu près intacte, mais elle ne vaut que pour... un public déterminé de destinataires qui ne s'intéresse qu'à l'ensemble des produits promus. Et enfin, quatrième cas de figure, c'est l'absence de rapport entre la critique ou le guide et les vins et les producteurs qu'elle promeut, dans la mesure où, dans ce cas-là, la critique prétend évaluer tous les vins sans distinction a priori. Alors le problème se pose, bien sûr, de l'application de critères à prétention universelle dans ce cas-là, à des producteurs et des produits qui obéissent à des hiérarchies de goût ou à des échelles de valeur divergentes. Hein, si on se souvient qu'il y a différents mondes, donc pour chaque monde, on peut dire une échelle de valeur. Comment comparer les vins nature aux grands vins de Bordeaux ou, voilà, ou,
Je ne sais pas si c'est compréhensible, ce point-là. Parce que pour un public non initié, en fait, ce sont des guides qui veulent rendre compte du monde du vin dans son ensemble et qui, par conséquent, mêlent des hiérarchies de goût différentes. Alors comment ça se passe en pratique ? Eh bien, tout simplement, ils vont diviser peut-être par région et avoir des experts qui expertisent différemment. Et dans un même guide, on va avoir des modes d'expertise hétéronomes. Je ne sais pas si c'est clair.
Oui. Alors, autre point particulièrement intéressant qui prolonge utilement en fait, c'est cette première partition, c'est la construction, la façon dont les guides vont construire la légitimité du jugement. La légitimité du jugement et de la sélection même qu'ils vont opérer au sein de cette offre extrêmement pléthorique. Cette question de la construction de la légitimité du jugement et de la sélection permet de saisir d'autres relations que les guides entretiennent avec certains acteurs des mondes du vin. Et donc dans l'idée de coordination marchande, c'est particulièrement intéressant de voir que certes, les guides ont mis en œuvre des modes de construction de la légitimité et de sélection même des produits qui variables en fait, hein, en faisant appel à des acteurs différents des mondes du vin. Alors, ce qui est intéressant à observer, et ce que pointe notamment Stéphane Olivesi, c'est les stratégies de sélection des produits. On a vu hein, que certains guides, au moins, correspondaient tendanciellement à un monde du vin. Mais même dans ce cas, La question qui se pose pour chaque guide, c'est comment couvrir la France entière? Comment faire pour couvrir la France entière? Comment trouver les moyens de le faire? Alors, plusieurs stratégies ont été finalement expérimentées, hein, pas toujours couronnées de succès. La plus simple, c'est renoncer à une sélection exhaustive, basée sur des critères explicites, et retenir les vignerons en nombre limité, en assumant ouvertement l'arbitraire relatif de la sélection. Voilà. Donc là, ce qui joue beaucoup, c'est le bouche à oreille, c'est les contacts avec les vignerons, notamment les vignerons à forte notoriété, et puis les échanges avec les acteurs centraux qui permettent d'opérer la sélection. Mais évidemment, c'est une solution qui n'est envisageable que si on ne veut pas proposer un guide d'achat relativement exhaustif. Ils le disent clairement, ils font un choix, voilà, c'est des contacts personnalisés. Et... Bon, deuxième stratégie de sélection, celle mise en place par notamment le guide Fleurus, qui a disparu depuis.
Oui, il a fait faillite.
Il a fait faillite. C'était en raison de cette stratégie de sélection. Alors, le guide Fleurus, il avait trouvé une solution avantageuse, c'était de mobiliser les sommeliers, enfin, un ensemble de sommeliers, et de se baser sur leur expertise pour fonder la légitimité de la sélection et de la critique. Donc, il demandait à un ensemble de sommeliers de faire cette sélection. Alors, c'est une solution qui permettait de faire l'économie des opérations de dégustation et de sélection, enfin, parce que c'est lourd, sinon, évidemment, c'est très long, coûteux, etc. Et de partager, finalement, avec une autre figure du monde du vin, le sommelier, la responsabilité de la sélection. Alors, cette solution-là, cette stratégie-là, a été analysée dans le livre comme une fausse bonne idée, en fait, parce que finalement, la sélection ne correspondait pas aux attentes du grand public, ne serait-ce que parce que vous avez des circuits d'achat qui sont différents, des vignerons qui vendent qu'aux professionnels, en fait, qu'au circuit de la gastronomie, justement, par exemple, qui n'ont pas à vendre aux particuliers. Et il y avait aussi une absence de distanciation à l'égard des économies du vin et de la restauration dont dépendent justement les sommeliers. Alors là, il y a un lien peut-être à faire avec justement la gastronomie, mais bon voilà. Donc ça a remis en cause la légitimité de la sélection. C'est un modèle qui n'a pas perduré, mais voilà. Autre construction de légitimité du jugement et aussi de la sélection, la stratégie du guide Hachette, qui est donc le leader des guides par les ventes, qui confie cette sélection et l'expertise à des comités locaux, souvent adossés aux structures des appellations d'origine contrôlée.
En gros, ce sont les syndicats professionnels.
Voilà. Donc le guide, dans ce cas-là, n'intervient pas dans le contenu de la critique, et donc il confie, il délègue à ces comités locaux la sélection, et voilà. Oui, il faut que je me dépêche. Le problème, c'est que les comités locaux, dans ce cas-là, ne font... ça n'a pas remis en cause complètement la légitimité du guide, mais un des problèmes qui n'est pas trop pointé dans les entretiens, ça c'était surprenant, mais que tu pointes en tout cas, c'est que ça remet en cause... les comités locaux, ne font que confirmer le goût institutionnel que les acteurs locaux, économiquement dominants au sein des AOC, faut prévaloir. Donc ça risque, le risque est de consacrer en fait des vins conformes à l'idéal de vins moyens destinés à la grande distribution, hein, que promeuvent souvent les acteurs majeurs au sein de ces AOC. Alors j'essaye d'accélérer. Dans ces stratégies, ensuite vous avez une dernière stratégie qui consiste à vraiment faire la sélection, de vraiment essayer de mettre en œuvre une sélection sur l'ensemble des produits. Mais c'est évidemment coûteux, long. Mais c'est effectivement ce que font certains guides. Je ne vais peut-être pas m'attarder beaucoup plus longtemps sur la critique, si ce n'est pour dire que la fin du chapitre porte aussi sur les effets et l'impact de la critique sur l'achat, sur le succès des vins et sur les rapports en fait à la fois des producteurs à la critique et les rapports des consommateurs au guide critique. Bon, sur les rapports des producteurs à la critique, ces rapports à la critique dépendent beaucoup de la position et de l'importance en fait des producteurs et de leur position dans ces différents mondes du vin. Mais évidemment, ce que dit le directeur du guide Hachette là, c'est que l'attribution d'une bonne note à un vin, une bonne critique peut faire exploser les ventes de tel ou tel vin. Alors les producteurs nuancent un peu ça, mais ça peut être vrai en fait, effectivement, pour un moyen, un, producteur moyen ou un petit producteur indépendant. Ça l'est beaucoup moins, en fait, pour des... Il y a d'autres producteurs qui sont en position dominante et qui sont assez indifférents, au fond, à ce que disent les guides. Même si rester dans le guide, ça permet de rester dans toute, justement, l'économie symbolique du vin. Alors, il vaut mieux y être, quand même. Mais, en gros, les verdicts de la critique et des guides n'apparaissent pas déterminants, comme pour, en tout cas, pour les plus gros... les producteurs les plus importants ou les plus prestigieux. Ça peut évidemment, effectivement, améliorer beaucoup les ventes des plus petits producteurs. Voilà, alors, bon, je crois que j'ai pas le temps de...
Il va falloir... il faut laisser discuter.
Oui, bien sûr.
Que les auteurs puissent parler.
Tout à fait. Si je peux dire juste une chose sur ce chapitre-là, c'est que la critique a été un élément clé de l'économie du vin et de la restructuration de toute la filière. Sans la critique, le monde du vin en France ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et le rôle de la critique, il est situé dans le bouquin. En gros, ça part des années 80, années 90 et jusqu'au milieu des années 2000. Et ensuite, il y a un déclin relatif de l'activité critique. Et aujourd'hui, il y a d'autres formes de médiation, mais on s'en prend des débat.
Qui s'appelle la faculté de goûter. Ce dernier chapitre, il nous conduit en fait de la production, pour le coup, vers la dégustation, en fait, hein, en étudiant la culture du goût et la diffusion auprès d'un... d'un large public, mais notamment en étudiant le dispositif de la dégustation, hein, la dégustation experte. Alors, on retrouve dans ce dispositif de nombreuses choses qu'on a vues dans le livre auparavant, et notamment le poids des critères œnologiques, etc., des savoirs œnologiques. Voilà. Puis, ce modèle de la dégustation, en fait... la dégustation, on va dire, savante, s'accompagne aussi à côté de la prolifération d'un ensemble de dispositifs de dégustation variés, d'apprentissage aussi du goût pour le vin, hein, à la fois organisé par des cavistes ou par des écoles, etc. Bon. Et donc ce dispositif de la dégustation, c'est beaucoup diffusé. Je vais pas aller plus loin là-dessus, je vais peut-être arrêter parce que j'ai dit pas mal de choses, peut-être qu'on pourra poursuivre dans la discussion, peut-être si tu veux, Stéphane, présenter davantage certains aspects hein, sur lesquels j'ai fait le choix en fait, de passer. Alors peut-être quelques questions. Bon, alors d'abord je reviens sur deux questions que j'avais posées pendant l'exposé. D'abord... tu expliques que finalement tu as le goût de ta position, tu as le goût pour le vin qui est celle de ta position sociale. Alors justement, si on veut faire un peu de sociologie de cette relation, pas spécialement toi ta position sociale, mais j'imagine que derrière ça tu mets une fraction du monde social, quoi. Donc voilà, ça m'intéresserait de savoir parce que voilà. Alors autre chose sur le plan là. Plus théorique, bon, très familier de la sociologie de Bourdieu, et quand je lis l'ouvrage à certains moments, alors bien sûr il est assez imprégné de ce cadre-là, l'économie des biens symboliques, etc. Mais pour autant, le choix de certains concepts, c'est plutôt voilà, les mondes, la pluralité de certains des mondes du vin. À un moment donné, sur le chapitre sur la critique, tu parle de champ, de sous-champ, mais en fait, c'est pas le concept que tu veux vraiment utiliser, tu veux plutôt parler d'espace promotionnel, bon. Et donc, alors, c'est une question un peu basique hein, et classique, mais finalement, pourquoi ne pas avoir davantage appliqué la théorie des champs à cet espace de la production du vin dans son ensemble, voilà, sachant qu'on peut en plus distinguer des sous-espaces de la critique, des œnologues, etc., éventuellement avec ce modèle-là. Voilà, est-ce qu'il y a des raisons particulières ?